Une chose étonnait mon père. La lettre du Sancerre n'arrivait pas. Il me fit à ce sujet sa première scène, croyant que j'avais soustrait la lettre, que j'avais faim ensuite de lui annoncer gratuitement la nouvelle et que j'avais ainsi obtenu son indulgence. En réalité, cette lettre n'existait pas. Je me croyais envoyé du collège, mais je me trompais. Aussi, mon père ne comprit-il rien lorsque, au début des vacances, nous reçûmes une lettre du proviseur. Il demandait si j'étais malade et s'il fallait m'inscrire pour l'année suivante. La joie de donner enfin satisfaction à mon père comblait un peu le vide sentimental dans lequel je me trouvais, car, si je croyais ne plus aimer Marthe, je la considérais du moins comme le seul amour qui eût été digne de moi. C'est dire que je l'aimais encore. J'étais dans ces dispositions de cœur quand, à la fin de novembre, un mois après avoir reçu une lettre de faire part de son mariage, je trouvai en rentrant chez nous une invitation de Marthe qui commençait par ces lignes « Je ne comprends rien à votre silence. Pourquoi ne venez-vous pas me voir? Sans doute, avez-vous oublié que vous avez choisi mes meubles ?» Marthe habitait J. Sa rue descendait jusqu'à la Marne. Chaque trottoir réunissait au plus une douzaine de villas. Je m'étonnais que la sienne fût si grande. En réalité, Marthe habitait seulement le haut, les propriétaires et un vieux ménage se partageant le bas. Quand j'arrivais pour goûter, il faisait déjà nuit. Seule une fenêtre, à défaut d'une présence humaine, révélait celle du feu. Avoir cette fenêtre illuminée par des flammes inégales comme des vagues, je crus à un commencement d'incendie. La porte de fer du jardin était entr'ouverte. Je m'étonnais d'une semblable négligence. Je cherchais la sonnette, je ne la trouvais point. Enfin, gravissant les trois marches du perron, je me décidai à frapper contre les vitres du rez-de-chaussée de droite, derrière lesquelles j'entendais des voix. Une vieille femme ouvrit la porte et je lui demandai où demeurait Madame Lacombe. Tel était le nouveau nom de Marthe. « Ah, c'est au-dessus !» Je montai l'escalier dans le noir, trébuchant, me cognant et mourant de crainte qu'il fût arrivé quelque malheur. Ah, je faillis lui sauter au cou, comme les gens qui se connaissent à peine après avoir échappé au naufrage. Elle n'y eut rien compris. Sans doute me trouva-t-elle l'air égaré, car avant toute chose, je lui demandais pourquoi il y avait le feu. Mais c'est qu'en vous attendant, j'avais fait dans la cheminée du salon un feu de bois d'olivier à la lueur duquel je lisais. En entrant dans la petite chambre qui lui servait de salon, peu encombrée de meubles, et que les tentures, les gros tapis doux comme un poil de bête rétrécissaient jusqu'à lui donner l'aspect d'une boîte, je fus à la fois heureux et malheureux, comme un dramaturge qui, voyant sa pièce, y découvre trop tard des fautes. Marthe s'était de nouveau étendue le long de la cheminée, tisonnant la braise et prenant garde à ne pas mêler quelques parcelles noires aux cendres. « Vous n'aimez peut-être pas l'odeur de l'olivier ?» Oh, ce sont mes beaux-parents qui en ont fait venir pour moi une provision de leur propriété du midi. Marthe semblait s'excuser d'un détail de son cru dans cette chambre qui était mon œuvre. Peut-être cet élément détruisait-il un tout qu'elle comprenait mal. Au contraire, ce feu me ravit, et aussi de voir qu'elle attendait comme moi de se sentir brûlante d'un côté pour se retourner de l'autre. Son visage calme et sérieux ne m'avait jamais paru plus beau que dans cette lumière sauvage. À ne pas se répandre dans la pièce, cette lumière gardait toute sa force. Dès qu'on s'en éloignait, il faisait nuit et on se cognait aux meubles. Marthe ignorait ce que c'est que d'être mutine. Dans son enjouement, elle restait grave. Mon esprit s'engourdissait peu à peu auprès d'elle. Je la trouvais différente. C'est que, Maintenant que j'étais sûr de ne plus l'aimer, je commençais à l'aimer. Je me sentais incapable de calcul, de machination, de tout ce dont jusqu'alors et encore à ce moment-là, je croyais que l'amour ne peut se passer. Tout à coup, je me sentais meilleur. Ce brusque changement aurait ouvert les yeux de tout autre, et moi je ne vis pas que j'étais amoureux de Marthe. Au contraire, j'y vis la preuve que mon amour était mort, et qu'une belle amitié le remplacerait. Cette longue perspective d'amitié me fit admettre soudain combien un autre sentiment eût été criminel, lésant un homme qui l'aimait, à qui elle devait appartenir, et qui ne pouvait l'avoir. Pourtant, autre chose m'aurait dû renseigner sur mes véritables sentiments. Il y a quelques mois, quand je rencontrais Marthe, mon prétendu amour ne m'empêchait pas de la juger, de trouver laide la plupart des choses qu'elle trouvait belles, la plupart des choses qu'elle disait enfantines. Aujourd'hui, si je ne pensais pas comme elle, je me donnais tort. Après la grossièreté de mes premiers désirs, c'était la douceur d'un sentiment plus profond qui me trompait. Je ne me sentais plus capable de rien entreprendre de ce que je m'étais promis. Je commençais à respecter Marthe parce que je commençais à l'aimer. Je revins tous les soirs. Je ne pensais même pas à la prier de me montrer sa chambre, encore moins à lui demander comment Jacques trouvait nos meubles. Je ne souhaitais rien d'autre que ses fiançailles éternelles, nos corps étendus près de la cheminée, se touchant l'un l'autre, et moi, n'osant bouger de peur qu'un seul de mes gestes suffit à chasser le bonheur. Mais Marthe, qui goûtait le même charme, croyait le goûter seule. Dans ma paresse heureuse, elle l'eut de l'indifférence. Pensant que je ne l'aimais pas, elle s'imagina que je me lasserais vite de ce salon silencieux si elle ne faisait rien pour m'attacher à elle. Nous nous taisions. J'y voyais une preuve du bonheur. Je me sentais tellement près de Marthe, avec la certitude que nous pensions en même temps aux mêmes choses, que lui parler me semblait absurde, comme de parler haut quand on est seul. Ce silence accablait la pauvre petite. La sagesse eût été de me servir de moyen de correspondre aussi grossier que la parole ou le geste, tout en déplorant qu'il n'en existât point de plus subtil. À me voir tous les jours m'enfoncer de plus en plus dans ce mutisme délicieux, Marthe se figura que je m'ennuyais de plus en plus. Elle se sentait prête à tout pour me distraire. Sa chevelure dénouée, elle aimait dormir près du feu, ou plutôt, je croyais qu'elle dormait. Son sommeil lui était prétexte pour mettre ses bras autour de mon cou, et une fois réveillée, les yeux humides me dire qu'elle venait d'avoir un rêve triste. Elle ne voulait jamais me le raconter. Je profitais de son faux sommeil pour respirer ses cheveux, son cou, ses joues brûlantes, et en les effleurant à peine pour qu'elle ne se réveillât point. Toutes caresses qui ne sont pas, comme on croit, la menue monnaie de l'amour, mais au contraire la plus rare et auquel seule la passion puisse recourir. Moi, je les croyais permises à mon amitié. Pourtant, je commençais à me désespérer sérieusement de ce que seul l'amour nous donna des droits sur une femme. Je me passerais bien de l'amour, pensais-je, mais jamais de n'avoir aucun droit sur Marthe. Et pour en avoir, j'étais même décidé à l'amour, tout en croyant le déplorer. Je désirais Marthe et ne le comprenais pas. Quand elle dormait ainsi, sa tête appuyée contre un de mes bras, je me penchais sur elle pour voir son visage entouré de flammes. C'était jouer avec le feu. Un jour que je m'approchais trop, sans pourtant que mon visage touchât le sien, je fus comme l'aiguille qui dépasse d'un millimètre la zone interdite et appartient à l'aimant. Est-ce la faute de l'aimant ou de l'aiguille? C'est ainsi que je sentis mes lèvres contre les siennes. Elle fermait encore les yeux, mais visiblement comme quelqu'un qui ne dort pas. Je l'embrassai, stupéfait de mon audace, alors qu'en réalité c'était elle qui, lorsque j'approchais de son visage, avait attiré ma tête contre sa bouche. Ses deux mains accrochaient à mon cou, elle ne se serait pas accrochée plus furieusement dans un naufrage, et je ne comprenais pas si elle voulait que je la sauve, ou bien que je me noie avec elle. Maintenant, elle s'était assise. Elle tenait ma tête sur ses genoux, caressant mes cheveux, et me répétant très doucement « Il faut que tu t'en ailles. Il ne faut plus jamais revenir. » Je n'osais pas la tutoyer. Lorsque je ne pouvais plus me taire, je cherchais longuement mes mots, construisant mes phrases de façon à ne pas lui parler directement, car si je ne pouvais pas la tutoyer, je sentais combien il était encore plus impossible de lui dire « vous ». Mes larmes me brûlaient. S'il en tombait une sur la main de Marthe, je m'attendais toujours à l'entendre pousser un cri. Je m'accusais d'avoir rompu le charme, me disant qu'en effet j'avais été fou de poser mes lèvres contre les siennes, oubliant que c'était elle qui m'avait embrassé. « Il faut que tu t'en ailles, ne plus jamais revenir. » Mes larmes de rage se mêlaient à mes larmes de peine. Ainsi la fureur du loup pris lui fait autant de mal que le piège. Si j'avais parlé, ça aurait été pour injurier Marthe. Mon silence l'inquiéta, elle y voyait de la résignation. Puisqu'il est trop tard, la faisais-je penser, dans mon injustice peut-être... Non. Puisqu'il est trop tard, la faisais-je penser, dans mon injustice peut-être clairvoyante, après tout, j'aime autant qu'il souffre. Dans ce feu, je grelottais, je claquais des dents. À ma véritable peine qui me sortait de l'enfance, s'ajoutaient des sentiments enfantins. J'étais le spectateur qui ne veut pas s'en aller, parce que le dénouement lui déplaît. Je lui dis, je ne m'en irai pas. Vous vous êtes moqué de moi, je ne veux plus vous voir. Car si je ne voulais pas rentrer chez mes parents, je ne voulais pas non plus revoir Marthe. Je l'aurais plutôt chassée de chez elle. Mais elle sanglotait. Tu es un enfant. Tu ne comprends donc pas que si je te demande de t'en aller, c'est que je t'aime. Haineusement, je lui dis que je comprenais fort bien qu'elle avait des devoirs et que son mari était à la guerre. Elle secouait la tête. Avant toi, j'étais heureuse. Je croyais aimer mon fiancé. Je lui pardonnais de ne pas bien me comprendre. C'est toi qui m'as montré que je ne l'aimais pas. Mon devoir n'est pas celui que tu penses. Ce n'est pas de ne pas mentir à mon mari, mais de ne pas te mentir. Va-t'en, et ne me crois pas méchante. Bientôt tu m'auras oublié, mais je ne veux pas causer le malheur de ta vie. Je pleure parce que je suis trop vieille pour toi. Ce mot d'amour était sublime d'enfantillage. Et, quelles que soient les passions que j'éprouve dans la suite, jamais ne sera plus possible l'émotion adorable de voir une fille de 19 ans pleurer parce qu'elle se trouve trop vieille. La saveur du premier baiser m'avait déçu comme un fruit que l'on goûte pour la première fois. Ce n'est pas dans la nouveauté, c'est dans l'habitude que nous trouvons les plus grands plaisirs. Quelques minutes après, non seulement j'étais habitué à la bouche de Marthe, mais encore je ne pouvais plus m'en passer, et c'est alors qu'elle parlait de m'en priver à tout jamais. Ce soir-là, Marthe me reconduisit jusqu'à la maison. Pour me sentir plus près d'elle, je me blottissais sous cape et je la tenais par la taille. Elle ne disait plus qu'il ne fallait pas nous revoir. Au contraire, elle était triste à la pensée que nous allions nous quitter dans quelques instants. Elle me faisait lui jurer mille folies. Devant la maison de mes parents, je ne voulus pas laisser Marthe repartir seule et l'accompagnais jusque chez elle. Sans doute ces enfantillages n'eussent-ils jamais pris fin, car elle voulait m'accompagner encore. J'acceptai à condition qu'elle me laisserait à moitié route. J'arrivais une demi-heure en retard pour le dîner. C'était la première fois. Je mis ce retard sur le compte du train. Mon père fit semblant de le croire. Plus rien ne me pesait. Dans la rue, je marchais aussi légèrement que dans mes rêves. Jusqu'ici, tout ce que j'avais convoité enfant, il en avait fallu faire mon deuil. D'autre part, la reconnaissance me gâtait les jours offerts. Quel prestige aurait pour un enfant un jouet qui se donne lui-même? J'étais ivre de passion. Marthe était à moi. Ce n'est pas moi qui l'avais dit, c'était elle. Je pouvais toucher sa figure, embrasser ses yeux, ses bras, l'habiller, l'abîmer à ma guise. Dans mon délire, je la mordais aux endroits où sa peau était nue pour que sa mère la soupçonnât d'avoir un amant. J'aurais voulu pouvoir y marquer mes initiales. Ma sauvagerie d'enfant retrouvait le vieux sens des tatouages. Marthe disait « Oui, mords-moi, marque-moi, je voudrais que tout le monde sache. » J'aurais voulu pouvoir embrasser ses seins. Je n'osais pas le lui demander, pensant qu'elle saurait les offrir elle-même, comme ses lèvres. Au bout de quelques jours, l'habitude d'avoir ses lèvres étant venue, je n'envisageais pas d'autres délices. Nous lisions ensemble à la lueur du feu. Elle y jetait souvent des lettres que son mari lui envoyait chaque jour du front. À leur inquiétude, on devinait que celle de Marthe se faisait de moins en moins tendre et de plus en plus rare. Je ne voyais pas flamber ses lettres sans malaise. Elle grandissait une seconde le feu, et somme toute, j'avais peur de voir plus clair. Marthe, qui souvent maintenant me demandait s'il était vrai que je l'avais aimé dès notre première rencontre, me reprochait de ne le lui avoir pas dit avant son mariage. Elle ne se serait pas mariée, prétendait-elle. Car si elle avait éprouvé pour Jacques une sorte d'amour au début de leur fiançailles, celle-ci, trop longue par la faute de la guerre, avait peu à peu effacé l'amour de son cœur. Elle n'aimait déjà plus Jacques quand elle l'épousa. Elle espérait que ces 15 jours de permission accordés à Jacques transformeraient peut-être ses sentiments. Il fut malhabile. Celui qui aime agace toujours celui qui n'aime pas. Et Jacques aimait toujours davantage. Ses lettres étaient de quelqu'un qui souffre, mais plaçant trop haut sa Marthe pour la croire capable de trahison. Aussi n'accusait-il que lui, la suppliant seulement de lui expliquer quel mal il avait pu faire. « Je me trouve si grossier à côté de toi. » Je sens que chacune de mes paroles te blesse. » Marthe lui répondait seulement qu'il se trompait, qu'elle ne lui reprochait rien. Nous étions alors au début de mars. Le printemps était précoce. Les jours où elle ne m'accompagnait pas à Paris, Marthe, nue sous un peignoir, attendait que je revinsse de mes cours de dessin, étendue devant la cheminée où brûlait toujours l'olivier de ses beaux-parents. Elle leur avait demandé de renouveler sa provision. Je ne sais quelle timidité, si ce n'est celle qu'on éprouve en face de ce qu'on n'a jamais fait, me retenait. Je pensais à Daphnis. Ici, c'est Chloé qui avait reçu quelques leçons, et Daphnis n'osait lui demander de les lui apprendre. Au fait, Ne considérais-je pas Marthe plutôt comme une vierge, livrée la première quinzaine de ses noces à un inconnu et plusieurs fois prise par lui de force? Le soir, seul dans mon lit, j'appelais Marthe, n'en voulant, moi qui me croyais un homme, de ne l'être pas assez pour finir d'en faire ma maîtresse. Chaque jour, allant chez elle, je me promettais de ne pas sortir qu'elle le fût. Le jour de l'anniversaire de mes 16 ans, au mois de mars 1918, tout en suppliant de ne pas me fâcher, elle me fit cadeau d'un peignoir semblable au sien qu'elle voulait me voir mettre chez elle. Dans ma joie, je faillis faire un calembour, moi qui n'en faisais jamais, ma robe prétexte. Car il me semblait que ce qui jusqu'ici avait entravé mes désirs, c'était la peur du ridicule, de me sentir habillé lorsqu'elle ne l'était pas. D'abord, je pensais à mettre cette robe le jour même. Puis, je rougis, comprenant ce que son cadeau contenait de reproche. Dès le début de notre amour, Marthe m'avait donné une clé de son appartement afin que je n'eusse pas à l'attendre dans le jardin si par hasard elle était en ville. Je pouvais me servir moins innocemment de cette clé. Nous étions un samedi. Je quittais Marthe en lui promettant de venir déjeuner le lendemain avec elle. Mais j'étais décidé à revenir le soir aussitôt que possible. Au dîner, j'annonçai à mes parents que j'entreprendrais le lendemain avec René une longue promenade dans la forêt de Sénart. Je devais pour cela partir à 5 heures du matin. Comme toute la maison dormirait encore, personne ne pourrait deviner l'heure à laquelle j'étais parti et si j'avais découché. À peine avais-je fait part de ce projet à ma mère qu'elle voulut préparer elle-même un panier rempli de provisions pour la route. Oh, j'étais consterné, ce panier détruisait tout le romanesque et le sublime de mon acte. Moi qui goûtais d'avance l'effroi de Marthe quand j'entrerais dans sa chambre, je pensais maintenant à ses éclats de rire en voyant paraître ce prince charmant, un panier de ménagère à son bras. J'eus beau dire à ma mère que René s'était muni de tout, elle ne voulut rien entendre. Résister davantage, c'était éveiller les soupçons. Ce qui fait le malheur des uns causerait le bonheur des autres. Tandis que ma mère emplissait le panier qui me gâtait d'avance ma première nuit d'amour, je voyais les yeux pleins de convoitises de mes frères. Je pensais bien le leur offrir en cachette. Mais une fois tout mangé, au risque de se faire fouetter, et pour le plaisir de me perdre, ils eussent tout raconté. Il fallait donc me résigner, puisque nulle cachette ne semblait assez sûre. Je m'étais juré de ne pas partir avant minuit, pour être sûr que mes parents dormissent. J'essayais de lire, mais comme 10 heures sonnaient à la mairie et que mes parents étaient couchés depuis quelque temps déjà, je ne pus attendre. Ils habitaient au premier étage, moi au rez-de-chaussée. Je n'avais pas mis mes bottines afin d'escalader le mur le plus silencieusement possible. Les tenant d'une main, tenant de l'autre ce panier fragile à cause des bouteilles, j'ouvris avec précaution une petite porte d'office. Il pleuvait. Oh, tant mieux, la pluie couvrirait le bruit. Apercevant que la lumière n'était pas encore éteinte dans la chambre de mes parents, je fus sur le point de me recoucher. Mais j'étais en route. Déjà, la précaution des bottines était impossible. À cause de la pluie, je dus les remettre. Ensuite, il me fallait escalader le mur pour ne point ébranler la cloche de la grille. Je m'approchai du mur contre lequel j'avais pris soin après le dîner de poser une chaise de jardin pour faciliter mon évasion. Ce mur était garni de tuiles à son faîte. La pluie les rendait glissantes. Comme je m'y suspendais, l'une d'elles tomba. Mon angoisse décupla le bruit de sa chute. Il fallait maintenant sauter dans la rue. Je tenais le panier avec mes dents. Je tombais dans une flaque. Une longue minute, je restais debout, les yeux levés vers la fenêtre de mes parents pour voir s'ils bougeaient, s'étant aperçus de quelque chose. la fenêtre resta vide. J'étais sauf. Pour me rendre chez Marthe, je suivis la Marne. Je comptais cacher mon panier dans un buisson et le reprendre le lendemain. La guerre rendait cette chose dangereuse. En effet, au seul endroit où il y eut des buissons et où il était possible de cacher le panier, se tenait une sentinelle gardant le pont de J. J'hésitais longtemps, plus pâle qu'un homme qui pose une cartouche de dynamite. Je cachai tout de même mes victoires. La grille de Marthe était fermée. Je pris la clé qu'on laissait toujours dans la boîte aux lettres. Je traversai le petit jardin sur la pointe des pieds, puis montai les marches du perron. J'ôtai encore mes bottines avant de prendre l'escalier. Marthe était si nerveuse, peut-être s'évanouirait-elle en me voyant dans sa chambre. Je tremblais, je ne trouvais pas le trou de la serrure. Enfin, je tournai la clé lentement afin de ne réveiller personne. Je butai dans l'antichambre contre le porte-parapluie. Je craignais de prendre les sonnettes pour les commutateurs, alors j'allais à tâtons jusqu'à la chambre. Je m'arrêtai avec encore l'envie de fuir. Peut-être Marthe ne me pardonnerait jamais. Ou bien, si j'allais tout d'un coup apprendre qu'elle me trompe et la trouver avec un homme, j'ouvris. Je murmurai « Marthe ?» Elle répondit « Ah, plutôt que de me faire une peur pareille, tu aurais bien pu ne venir que demain matin. Tu as donc ta permission 8 jours plus tôt ?» Elle me prenait pour Jacques. Or, si je voyais de quelle façon elle l'eût accueilli, j'apprenais du même coup qu'elle me cachait déjà quelque chose. Jacques devait donc venir dans 8 jours. J'allumais. Elle restait tournée contre le mur. Il était simple de dire « C'est moi !» Et pourtant, je ne le disais pas. Je l'embrassais dans le cou. « Ta figure est toute mouillée, assis-toi donc !» Alors, elle se retourna et poussa un cri. D'une seconde à l'autre, elle changea d'attitude et, sans prendre la peine de s'expliquer ma présence nocturne, « Ah, mais mon pauvre chéri, tu vas prendre mal, déshabille-toi vite !» Elles coururent animer le feu dans le salon. À son retour dans la chambre, comme je ne bougeais pas, elle dit « Veux-tu que je t'aide ?» Moi, qui redoutais par-dessus tout le moment où je devrais me déshabiller et qui en envisageait le ridicule, je bénissais la pluie, grâce à quoi ce déshabillage prenait un sens maternel. Mais Marthe repartait, revenait, repartait dans la cuisine, pour voir si l'eau de mon grog était chaude. Enfin, elle me trouva nue sur le lit, me cachant à moitié sous l'édredon. Elle me gronda. C'était fou de rester nu. Il fallait me frictionner à l'eau de Cologne. Puis Marthe ouvrit une armoire et jeta un costume de nuit. Il devait être de ma taille, un costume de Jacques. Et je pensais à l'arrivée fort possible de ce soldat, puisque Marthe y avait cru. J'étais dans le lit, Marthe m'y rejoignit, je lui demandais d'éteindre, car même en ses bras, je me méfiais de ma timidité. Les ténèbres me donneraient du courage. Marthe me répondit doucement « Non, je veux te voir t'endormir. » À cette parole pleine de grâce, je sentis quelque gêne. J'y voyais la touchante douceur de cette femme qui risquait tout pour devenir ma maîtresse, et ne pouvant deviner ma timidité maladive, admettait que je m'endormis auprès d'elle. Depuis 4 mois, je disais l'aimer, et ne lui en donnait pas cette preuve dont les hommes sont si prodigues et qui souvent leur tient lieu d'amour. J'éteignis de force. Je me retrouvai avec le trouble de tout à l'heure avant d'entrer chez Marthe. Mais comme l'attente devant la porte, celle devant l'amour ne pouvait être bien longue. Du reste, Mon imagination se promenait de telle volupté qu'elle n'arrivait plus à les concevoir. Pour la première fois aussi, je redoutais de ressembler au mari et de laisser à Marthe un mauvais souvenir de nos premiers moments d'amour. Elle fut donc plus heureuse que moi. Mais la minute où nous désenlaçâmes et ses yeux admirables valaient bien mon malaise. Son visage était transfiguré. Je m'étonnais même de ne pas pouvoir toucher l'auréole qui entourait vraiment sa figure, comme dans les tableaux religieux. Soulagé de mes craintes, il m'en venait d'autres. C'est que, comprenant enfin la puissance des gestes que ma timidité n'avait osé jusqu'alors, je tremblais que Marthe appartint à son mari plus qu'elle ne voulait le prétendre. Comme il m'est impossible de comprendre ce que je goûte pour la première fois, je devais connaître ces jouissances de l'amour chaque jour davantage. En attendant, le faux plaisir m'apportait une vraie douleur d'homme, la jalousie. J'en voulais à Marthe, parce que je comprenais à son visage reconnaissant tout ce que valent les liens de la chair. Je maudissais l'homme qui avait avant moi éveillé son corps. Je considérais ma sottise d'avoir vu en Marthe une vierge. À toute autre époque, souhaiter la mort de son mari, c'eût été chimère enfantine, mais ce vœu devenait presque aussi criminel que si j'eusse tué. Je devais à la guerre mon bonheur naissant. J'en attendais l'apothéose. J'espérais qu'elle servirait ma haine comme un anonyme, comme est le crime à notre place. Maintenant, nous pleurons ensemble. C'est la faute du bonheur. Marthe me reproche de n'avoir pas empêché son mariage. Mais alors, serais-je dans ce lit choisi par moi? Elle vivrait chez ses parents. Nous ne pourrions plus nous voir. Elle n'aurait appartenu à Jacques, mais elle ne m'appartiendrait pas. Sans lui et ne pouvant comparer, peut-être regretterait-elle encore, espérant mieux. Je ne hais pas Jacques. Je hais la certitude de tout devoir à cet homme que nous trompons. Mais j'aime trop Marthe pour trouver notre bonheur criminel. Nous pleurons ensemble de n'être que des enfants, disposant de peu. Enlever Marthe, comme elle n'appartient à personne qu'à moi, ce serait me l'enlever, puisqu'on nous séparerait. Déjà, nous envisageons la fin de la guerre, qui sera celle de notre amour. Nous le savons. Marthe a beau me jurer qu'elle quittera tout, qu'elle me suivra. Je ne suis pas d'une nature portée à la révolte, et me mettant à la place de Marthe, je n'imagine pas cette folle rupture. Marthe m'explique pourquoi elle se trouvait trop vieille. Dans 15 ans, la vie ne fera encore que commencer pour moi. Des femmes m'aimeront, qui auront l'âge qu'elle a. Je ne pourrai que souffrir, ajoute-t-elle. Si tu me quittes, j'en mourrai. Si tu restes, ce sera par faiblesse. Et je souffrirai de te voir sacrifier ton bonheur. Malgré mon indignation, je m'en voulais de ne point paraître assez convaincu du contraire. Mais Marthe ne demandait qu'à l'être, et mes plus mauvaises raisons lui semblaient bonnes. Elle répondait « Oui, je n'ai pas pensé à cela. Oh, je sens bien que tu ne me mens pas. » Moi, dans les craintes de Marthe, je sentais ma confiance moins solide. Alors mes consolations étaient molles, je lui disais « mais non, tu es folle !» Hélas, j'étais trop sensible à la jeunesse pour ne pas envisager que je me détacherais de Marthe le jour où sa jeunesse se fanerait et que s'épanouirait la mienne. Bien que mon amour me parût avoir atteint sa forme définitive, il était à l'état d'ébauche. Il faiblissait au moindre obstacle. Donc, les folies que cette nuit-là firent nos âmes nous fatiguèrent davantage que celles de notre chair. Les unes semblaient nous reposer des autres, en réalité, elles nous achevaient. Les coqs plus nombreux chantaient. Ils avaient chanté toute la nuit. Je m'aperçus de ce mensonge poétique. Les coqs chantent au lever du soleil. Ce n'était pas extraordinaire. Mon âge ignorait l'insomnie. Mais Marthe le remarqua aussi avec tant de surprise que ce ne pouvait être que la première fois. Elle ne put comprendre la force avec laquelle je la serrais contre moi, car sa surprise me donnait la preuve qu'elle n'avait pas encore passé une nuit blanche avec Jacques. Mes transes me faisaient prendre notre amour pour un amour exceptionnel. Nous croyons être les premiers à ressentir certains troubles, ne sachant pas que l'amour est comme la poésie et que tous les amants, même les plus médiocres, s'imaginent qu'ils innovent. Disais-je à Marthe, sans y croire d'ailleurs, mais pour lui faire penser que je partageais ses inquiétudes, « Tu me délaisseras, d'autres hommes te plairont. » Elle m'affirmait être sûre d'elle. Moi, de mon côté, je me persuadais peu à peu que je lui resterais, même quand elle serait moins jeune, ma paresse finissant par faire dépendre notre éternel bonheur de son énergie. Le sommeil nous avait surpris dans notre nudité. À mon réveil, la voyant découverte, je craignis qu'elle n'eût pris froid. Je tâtais son corps, il était brûlant. La voir dormir me procurait une volupté sans égale. Au bout de 10 minutes, cette volupté me parut insupportable. J'embrassai Marthe sur l'épaule. Elle ne s'éveilla pas. Un second baiser, moins chaste, agit avec la violence d'un réveil matin. Elle sursauta et se frottant les yeux, me couvrit de baisers comme quelqu'un qu'on aime et qu'on retrouve dans son lit après avoir rêvé qu'il est mort. Elle, au contraire, avait cru rêver ce qui était vrai et me retrouvait au réveil. Il était déjà 11 heures. Nous buvions notre chocolat quand nous entendîmes la sonnette. Je pensais à Jacques. Pourvu qu'il ait une arme. Moi qui avais si peur de la mort, je ne tremblais pas, au contraire. J'aurais accepté que ce fût Jacques à condition qu'il nous tuât. Toute autre solution me semblait ridicule. Envisager la mort avec calme ne compte que si nous l'envisageons seuls. La mort à deux n'est plus la mort, même pour les incrédules. Ce qui chagrine, ce n'est pas de quitter la vie, mais de quitter ce qui donne un sens à la vie. Lorsqu'un amour est notre vie, quelle différence y a-t-il entre vivre ensemble ou mourir ensemble? Je n'eus pas le temps de me croire un héros, car, pensant peut-être que Jacques ne tuerait que Marthe ou moi, je mesurais mon égoïsme. Savais-je même de ces deux drames lequel était le pire? Comme Marthe ne bougeait pas, je crus m'être trompé et qu'on avait sonné chez les propriétaires. Mais la sonnette retentit de nouveau. « Tais-toi, ne bouge pas, » murmura-t-elle. « Ce doit être ma mère. J'avais complètement oublié qu'elle passerait après la messe. » J'étais heureux d'être témoin d'un de ces sacrifices. Dès qu'une maîtresse, un ami sont en retard de quelques minutes à un rendez-vous, je les vois morts. Attribuant cette forme d'angoisse à sa mère, je savourais sa crainte et que ce fut par ma faute qu'elle l'éprouva. Nous entendîmes la grille du jardin se refermer après un conciliabule. Évidemment, Madame Grangier demandait au rez-de-chaussée si on avait vu ce matin sa fille. Marthe regarda derrière les volets et me dit « Oui, c'était bien elle. Je ne pus résister au plaisir de voir, moi aussi, Madame Grangier repartant, son livre de messe à la main, inquiète de l'absence incompréhensible de sa fille. Elle se retourna encore vers les volets clos.